Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, 10 septembre 2026, beau jeudi, j'espère que vous allez bien. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène Denis, bonjour tout le monde.
Bien dormi?
Oui, oui, ça va. Oui.
Vous avez un t-shirt que je n'ai jamais vu?
Oui, je l'ai volé à mon amoureuse.
Ah oui, salut Céline. Support, quoi? Don't punish, soutenez, ne punissez pas.
Je ne sais pas d'où ça
c'est
vient.
C'est politique, c'est quoi?
J'ai aucune idée.
Bon, on va l'appeler, là, votre blonde.
D'accord, je l'appelle à l'instant.
Bon, celui qu'on a entendu rire, c'est Yvan.
Oui, bien, peut-être qu'on pourrait avoir une suite, là, une fois qu'on aura plus d'informations sur le T-shirt.
Mais ben, on y compte bien.
Vous avez piqué ma curiosité.
Oui. Alors, Yvan, aujourd'hui, ben, vous avez aussi piqué notre curiosité. Vous allez nous parler de Louis Marois, 54 ans, qui s'apprête à réaliser tout un exploit.
Oui, puis c'est peut-être pas ça l'exploit finalement.
C'est quel exploit?
Pas le fait de courir 911 kilomètres en 11 jours, oui, c'est un exploit, mais vous allez voir dans le récit que je vais vous proposer qu'il y a comme un exploit en arrière de l'exploit.
Bon.
Et ça aussi, c'est pas banal.
Une mise en abîme de l'exploit.
Oui, mettons.
Monique, on vous joint dans vos beaux cantons de l'Est. Aujourd'hui, vous allez nous parler de TDAH.
Ben oui, ce trouble déficit d'attention ou avec ou sans hyperactivité. On en parle beaucoup, hein, Hélène?
Oui.
Eh bien, il y a une journaliste de la revue Epsilon, Marie-Christine Méra, qui y consacre un très long dossier. Alors, on apprend, en fait, à quel moment on a à peu près identifié ce trouble. Et on explique un peu la prévalence, parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont confrontés avec ce trouble-là. Mm-hmm. Alors, j'ai trouvé que c'était fort intéressant, surtout en ce début d'année scolaire, où beaucoup d'enseignants ont à faire des programmes adaptés, en fait, certaines interventions à cette population étudiante. Toujours aussi palpitant, mais un beau défi, quoi.
Oui, merci pour ce choix pertinent. On aura également une rencontre avec un bénévole Canalem, de Vues et Voix. Hein? Il est arrivé ici en 2002, donc ça fait 24 ans qu'André Lebeau fait du bénévolat à Canal M, mais surtout à Vues et Voix. C'est un lecteur et il vient nous présenter, je dis Canal M parce qu'il va devenir animateur-lecteur, en quelque sorte, d'une nouvelle émission à Canal M qui sera diffusée dès aujourd'hui. Ça a commencé à 8h ce matin et puis il y aura une autre diffusion à 17h. Il y aura d'autres diffusions de cette émission qui s'intitule « De la plume à l'oreille ». J'ai envie de garder le secret pour l'instant et de laisser parler André Lebeau qui sera avec nous après les brèves de Monique. On aura...
une voix extraordinaire.
C'est vrai. Je lui ferai votre message, vos compliments, cher Yvan. Chronique internationale aujourd'hui, François Larochelle, ancien diplomate du Canada, qui fera le point sur les grands dossiers internationaux des derniers mois et qui va parler de ceux qui vont attirer l'attention d'ici 2027. Et on aura les parasports. On a des nouvelles de Dominique Tremblay. Là, il nous fait toujours des surprises, Dominique. Alors, il sera là ou il sera pas là? Un suspense. Mais il est là, Pépé Zaguita. C'est sa guitare, Beau Souvenir, qui s'intitule « Il fait beau » pour nous mettre de la bonne humeur dans le cœur.
L'orteil. fait beau, il fait chaud. Le soleil m'émerveille, vive les abeilles. Le vent chaud me caresse la peau. Une abeille qui zézeille essaie de me piquer l'orteil. Mais toi c'est pas pareil, tu dis que toi la veille, ton cœur était dans l'eau. Mais moi je te dis réveille, regarde-moi soleil, c'est pas de mal la veille que t'en verras un pareil aussi beau. Et pour ce qui est de l'eau, je veux la boire, j'ai chaud.
Il fait beau selon Pépé et sa guitare.
À la une du Devoir, le Devoir à Toronto, alléchant contingent québécois au TIFF, le 51e Festival international du film de Toronto qui débute jeudi, aujourd'hui, offrira le mélange attendu de gros canons et de petites perles. François Lévesque est à Toronto, une semaine après avoir été balayé par une tempête avec importants dégâts à la clé. La ville de Toronto s'est prestement refait une beauté et pour cause, du 10 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 septembre, la ville accueille le gratin du cinéma mondial au Festival international du film de Toronto. Comme de coutume, l'événement offre un mélange de gros canons et de petites perles, perles qu'il faut parfois chercher au sein de la trop, point d'interrogation, vaste programmation. Comme à l'habitude, encore plusieurs productions québécoises ont été sélectionnées par l'équipe de Cameron Bailey. Alors, parmi ces films québécois, on a une photo du drame biographique Villeneuve, l'ascension d'une légende de Yann Lanouette-Turgeon, qui fera office de film de clôture du TIFF. Le film va prendre l'affiche au cinéma le 11 novembre au Québec. Et aussi une autre photo, le cinéaste québécois Denis Côté va présenter son long métrage « Violence du corps de l'autre ». Au TIFF, le film va prendre l'affiche ici au Québec le 23 octobre. Toujours moins d'étudiants étrangers au Québec, c'est aussi à la une du Devoir, études universitaires. Le nombre d'étudiants internationaux continue de chuter dans plusieurs universités québécoises, montrent des données compilées par Le Devoir, écrit Zachary Goudreau. Une situation qui compromet sérieusement les finances de certains établissements dans les grands centres urbains, comme en région, en plus de miner la recherche universitaire et l'avenir de certains programmes. Et le GIPS passe de la poubelle au bac de recyclage. Un nouveau programme au Québec pourrait éviter l'enfouissement de 80 000 tonnes de débris par année. Et à la une du Journal de Montréal, la police utilise ses nouveaux pouvoirs contre les Hells, leur logo illégal. Moins d'une semaine après l'entrée en vigueur de la loi anti-patch, deux membres en règle des Hells Angels ont été interceptés à Longueuil pour avoir affiché leurs couleurs en public. Le dossier sera maintenant soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales et les deux motards devraient recevoir prochainement une contravention par la poste. Le montant de l'amende pourrait atteindre 5 000 $ fin août. Le ministre Yann Lafrenière n'avait pas mâché ses mots au sujet des Hells Angels dans une entrevue accordée à notre bureau parlementaire. Il était notamment question de l'entrée en vigueur prochaine de la fameuse loi anti-patch au Québec. La fin de la récréation a sonné. C'est terminé, on va les avoir à l'œil, avait prévenu Yann Lafrenière, qui a consacré près de 30 ans de sa vie au métier de policier. Et à la une de la presse, plus le lendemain de débat, je ne sais pas si vous l'avez suivi, les chefs passent leur entrevue d'embauche, les faits saillants du premier rendez-vous télévisuel d'envergure de la campagne. paraît-il qu'il n'y a pas eu de gagnant. Je ne l'ai pas regardé. Je ne sais pas, vous, Mathieu, est-ce que vous avez suivi ça? Ou Yvan, je ne sais pas s'il est au bout du fil.
Je suis au bout du fil. Non, je ne l'ai pas suivi. Et même si je l'avais fait, je n'aurais pas le droit de vous en parler.
Oui, c'est vrai, parce que vous travaillez pour Élections Québec 2026.
Exact.
Et vous avez un droit de... pas un droit de réserve? Oui, OK.
C'est pas un droit,
non.
Comme une obligation de réserve.
Oui, oui. Est-ce que vous avez signé quelque chose pour ça? Ou c'est une loi tacite?
Peut-être.
OK. Bon.
J'ai signé bien des affaires à bien des endroits. Fait que je sais pas.
Vous n'en direz pas plus. Et on voit Céline Dion qui arbore un cœur avec ses doigts et ses mains. Céline, à la fois reine et bouffonne, la presse à Paris, c'est Hugo Dumas qui est là. Vous savez, Céline Dion va présenter très, très bientôt son spectacle à Paris. Et donc, elle est arrivée, elle fait des répétitions, mais elle fait aussi un spectacle d'humour. C'est Hugo Dumas qui écrit. C'est à la fois un spectacle d'humour, du mime, de la danse contemporaine, un karaoké géant et une séance de confidences anodines, d'échanges spontanés, de discussions à bâton rompu qui se dispersent dans toutes les directions. Et pas nécessairement les bonnes. Deux fois par jour, à l'heure du souper et passé minuit, Céline Dion offre des spectacles gratuits et hyper éclectiques à ses admirateurs les plus dévoués qui poirotent pendant des heures devant son chic hôtel du 8e arrondissement, le Royal Monceau, tout près de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Ses fans finis qui se cordent derrière une clôture métallique érigée par le Palais parisien sont du genre à se faire tatouer le visage de la diva de Charlemagne sur l'avant-bras, ainsi que les paroles de « Loved me back to life » entre les deux seins. Faut le voir pour le croire, je l'ai vu mercredi soir. Donc, je l'ai cru. Alors, il trouve que Céline, la chanteuse de 58 ans, semble heureuse, souple, crinquée et très en forme, prête pour son marathon de 16 concerts prévu jusqu'au 17 octobre à la Plénitude Arena en banlieue ouest de Paris. Elle s'abreuve à cette vague d'amour jusqu'à plus soif. Certains trouvent les grimaces, les mimiques et les discrétions de Céline charmantes. Perso, écrit Hugo Dumas, je trouve qu'elle égratigne le mythe de la plus grande voix du monde.
Sauvage et libre, comme le jour.
Sauvage et libre, une nouveauté de Marat Tremblay.
Il courra 911 kilomètres en 11 jours. Moi, je trouve que c'est un exploit, même si Yvan n'est pas d'accord.
Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que il y a un autre exploit en arrière, puis c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Mais juste pour mettre les choses en perspective, un marathon, c'est 42.
42 kilomètres.
42 kilomètres, pardon. Merci pour la précision. 911 kilomètres en 11 jours, c'est 82 kilomètres par jour. Ah. C'est presque de faire deux marathons par jour pendant 11 jours. Alors, oui, vous avez tout à fait raison de dire que c'est un exploit en soi, mais je vais vous raconter son histoire, puis vous allez voir qu'en arrière, il y a un autre exploit.
L'histoire de Louis Sirois.
Oui, l'histoire de Louis Sirois. En fait, c'est une série que la
presse... Ah non, pardon, Louis Marois.
Marois, oui, exact. C'est une série que la presse entreprend de présenter à chaque semaine le portrait d'une personne dont la ténacité, le courage ou la volonté de surmonter l'adversité force l'admiration. Dans ce cas-ci, c'est Catherine Harvey-Pinard. Je ne sais pas si c'est elle qui va toujours écrire, mais enfin, dans ce cas-ci, c'est elle qui a publié le 5 septembre cette histoire qui dit « Il courra, il y a plusieurs R là-dedans, courra 911 kilomètres en 11 jours. » Dans son métier de paramédical, Louis Marois a toujours été reconnu comme un fonceur, un guerrier et, comme on dit communément, une machine. Mais même les machines les plus solides ont parfois besoin d'être recalibrées. C'est le message qu'il espère passer en courant 911 kilomètres en 11 jours du 11 au 22 septembre, donc à partir de demain. Il dit « Sur des appels, même de gros appels traumatisants, je n'ai jamais figé, jamais reculé, c'est mon job. » L'entrevue a lieu à la plage d'Oka, au début septembre. Autour d'eux, de Catherine Harvey-Pinard et de M. Marois, les tables de pique-nique sont vides et un léger vent souffle sur les chaînes qui laisse tomber quelques glands. C'est ici, dans ce parc où il a grandi, que l'homme de 54 ans réalisera le défi qu'il s'est lancé de parcourir 911 kilomètres en 11 jours du 11 au 22 septembre. Le nombre de kilomètres n'est évidemment pas le fruit du hasard. Il fait référence au service d'urgence, au 911. Ce n'est pas non plus de façon aléatoire que M. Marois a ciblé la Vigile. C'est une maison de thérapie pour les professionnels en uniforme, comme organisme pour ramasser des fonds. Parce que il a lui-même passé 4 semaines à cet endroit en 2018. M. Marois a beau avoir la réputation de fonceur dans son métier, il n'était pas insensible. Il nous dit, quand ton numéro de camion sort, c'est toi. Tu ne peux pas dire à la répartition, non, je me sens pas bien aujourd'hui, ça me tente pas. Tu prends 3 respirations et tu ouvres la porte. Parfois, tu t'en vas sur l'appel et tu espères qu'un autre camion va se libérer plus rapidement. Tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on va trouver là? Notre interlocuteur est paramédical depuis 30 ans. Des images perturbantes, il en a vu et revu. Il dit, parfois je crachais après des appels. À la maison, avec sa conjointe de l'époque, il se permettait de pleurer. Il dit, avant d'aller à la Vigile, je pouvais pleurer 3 fois par semaine sans même trop savoir pourquoi. Au début de l'année 2018, M. Marois s'est mis à avoir des comportements extrêmes. À la maison avec sa fille, il était soit papa gâteau, soit hyper autoritaire et contrôlant. Tu as des appels traumatisants et tu vois la misère humaine au quotidien. C'est comme si je me disais, ma fille ne grandira pas de même, elle ne deviendra pas comme ça. C'est sa conjointe de l'époque qui, un bon jour, a insisté pour qu'il entre à la Vigile, ce qu'il a fait le 8 janvier 2018. Louis Marois a passé 4 semaines dans la maison de thérapie qui comprend 16 lits. Chaque jour, il assistait à des ateliers offerts par différents intervenants. Il n'avait pas accès à son cellulaire à l'exception d'un appel par semaine. Là-bas, il a reçu un diagnostic de fatigue de compassion sévère avec traumatisme vicariant. Santé Québec décrit la fatigue de compassion comme un état d'épuisement émotionnel, physique et cognitif qui survient lorsqu'une personne est exposée de façon prolongée à la souffrance d'autrui. Il nous dit donc, dans ces jobs-là, ça prend de l'empathie, une certaine compassion. Quand à la longue, ce bouclier-là rétrécit et rétrécit encore, c'est comme si tu tombais dans de la sympathie. C'est rendu que tu peux parfois être en inhibition émotionnelle, où tu te coupes de tout. D'autres fois, tu te mets à absorber toutes les émotions de la famille. Quand il est sorti de la vigile le 8 février, donc 4 semaines après son entrée, M. Marois n'était évidemment pas guéri. Il a continué à travailler sur lui-même. Même encore aujourd'hui, 8 ans plus tard, ça lui arrive de faire des rechutes. La vigile m'a appris à lâcher prise, à me servir des bons outils. C'est un travail en tout temps. Il s'est aussi découvert une passion, les courses d'ultra longue distance. Louis Marois court depuis son plus jeune âge. Avant d'entrer à la vigile, il avait commencé à faire des courses d'endurance en sentier. Quand il s'est séparé à la sortie de la maison de thérapie, il a en quelque sorte redécouvert cette nouvelle passion. Au fil des années, M. Marois a pris part à 2 courses de 50 km et au Bromont Ultra. En 2022, il a fait la Diagonale des Fous. C'est une course que je connais pour une autre raison, mais c'est une course de 180 km à l'île de la Réunion. Il a aussi couru au Portugal, en Géorgie et au Québec. Bref, il a eu la piqûre. Cette fois-ci, M. Marois a décidé de se lancer son propre défi. Courir 911 km en 11 jours. Il commencera le matin du 11 septembre, date du triste 25e anniversaire des attentats du même nom qui ont coûté la vie à de nombreux premiers répondants. Il nous dit d'ailleurs, dans les jobs qu'on fait, quand le monde sort, toi, tu entres. Le défi de M. Marois se déroulera entièrement à Oka, là où il a grandi et où il court chaque jour. Il parcourra 3 fois 2 boucles chaque jour, une de 15 km au Calvaire et une de 13 km qui passe par le sentier de la Grande Baie. Entre chaque boucle, il repassera par son point de départ à l'extrémité du stationnement. Il dormira dans un prêt-à-camper que lui prête le parc. Sa dernière journée sera dans les faits un peu plus courte, puisqu'il devra courir seulement 71 km pour atteindre son but de 911. Il nous dit, en courant ici, je n'ai pas d'enjeu de tomber dans des ravins ou de percuter de grosses roches. Je peux contempler, évoque le sympathique coureur. Le défi ici, c'est vraiment de rentrer dans un genre de métronome. C'est long, il faut que tu dures. M. Marois courra de 6 heures du matin à 22 heures afin de respecter le couvre-feu de la CEPAC. Il invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à lui pour le nombre de kilomètres ou de boucles qu'ils veulent. Jusqu'à maintenant, M. Marois a amassé plus de 13 400 $ au profit de la vigile avec une campagne lancée sur le site Zephy. Ça s'appelle le défi de Louis, 911 km de course. Avec ce défi, il espère sensibiliser ses collègues des services d'urgence, paramédicaux, pompiers, policiers. Son message, come on, il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. C'est encore un peu tabou, il y a du chemin à faire, c'est perçu comme une faiblesse. Ça n'a pas rapport, ça fait 30 ans que je suis là, Hier, j'ai géré un arrêt cardiaque. La semaine passée, j'ai fait 2 morts coup sur coup. Monsieur Marois aime toujours son métier, mais il s'est trouvé une passion qui, croit-il, lui permet aujourd'hui de mieux faire son travail qu'avant. C'est d'ailleurs son autre message. Même si tu pars avec l'image du héros en tête, ça reste un métier. Il faut que tu aies des passions. On n'est pas Batman ni Superman. Alors, je vous résume cette histoire en vous disant que le nom de notre héros d'aujourd'hui, c'est Louis Marois. Il fait de la course de longue distance et il parcourra 911 km en 11 jours dans le parc d'Oka au profit de la maison de thérapie La Vigile afin de sensibiliser notamment ses collègues des services d'urgence aux enjeux de santé mentale.
En effet, il y a beaucoup d'exploits dans cette histoire, Yvan. Et oui. Vous avez parlé dans cette histoire de la Diagonale des Fous, une course que vous connaissez pour une autre raison. Est-ce qu'on peut en savoir oui. un peu plus?
Oui, c'est pas parce que j'ai couru. C'est que dans le balado Au-delà des limites, on a parlé avec un organisateur et des participants, dont un participant en fauteuil roulant, en Joëlette.
Ah oui.
Donc, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes qui ont parcouru pas tout à fait la distance dont on parlait dans cet article-ci, mais qui ont parcouru une bonne partie de la Diagonale des Fous, entre autres en transportant une personne à mobilité réduite en Joëlette. Et on peut voir cet exploit-là sur YouTube. C'est fascinant.
Ça décoiffe.
Tout à fait.
Oui. Ben merci beaucoup, Yvan. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Il reste 15 secondes.
Non, d'après mon compteur, je dois vous dire bonjour et
oui.
à la semaine prochaine.
Et d'après le mien aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On va se retrouver jeudi prochain.
Oui, avec plaisir.
Même heure, même poste. À bientôt.
Même heure, même poste. Bye.
Il y a la chronique de Monique qui s'en vient dans la prochaine demi-heure.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Sous influence, je m'élance dans cette ville d'influencés. Soudain, tout se ressent. Qui influence, qui en premier? Est-ce les autres ou la démence qui m'ont encore dupliqué? Pourquoi unique je m'en sens? Je ne suis pourtant qu'un condamné. Mais qu'ont-ils fait encore de moi? Pourquoi tout le monde fait toujours comme eux? De moi aussi sont-ils envieux? Dis, est-ce qu'on se suit dans les deux cas? Si je fume, ce n'est pas moi. Si je bois, ce n'est pas moi. Demandez-leur pourquoi ils me font aimer des choses que je n'aime pas. Si j'ai tort, ce n'est pas moi. Si je sors, ce n'est pas moi. Demandez pas pourquoi je l'y suis si facilement que ça. Ah, 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 ah. Sous influence, je m'avance dans cette ville de cinglés. Sortir la carte de l'apparence semble être une porte d'entrée. Soudain tout prend un sens. Oui, j'ai le bon et beau cliché. Je suis victime de l'influence et je crois bien que je m'y fais. Mais qu'ont-ils fait encore de nous? Pourquoi tout le monde fait toujours comme eux? De nous aussi sont-ils envieux? Là, ils me rendent complètement fou. Si je fume, ce n'est pas moi. Si je bois, ce n'est pas moi. Demandez-leur pourquoi ils me font aimer des choses que je n'aime pas. Si j'ai tort, ce n'est pas moi. Si je sors, ce n'est pas moi. Demandez pas pourquoi je l'y suis si facilement que ça. Ah, 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 ah. Je suis la danse sans trop de sens. Je ne suis pas grand-chose, un humain de plus. Sous influence, un peu perdu, beaucoup de choix, je lutte. Je suis la danse, sans trop de sens. Je ne suis pas grand chose, un humain de plus. Sous influence, un peu perdu, beaucoup de choix, je lutte. Si je fume, ce n'est pas moi. Si je bois, ce n'est pas moi. Demandez-leur pourquoi ils me font aimer des choses que je n'aime pas. Si j'ai tort, ce n'est pas moi. Si je sors, ce n'est pas moi.
Demandez pas pourquoi je les suis si facilement que ça.
C'est le titre de cette chanson d'Eddie De Pretto. Et justement, mon chandail Support Don't Punish, c'est une campagne organisée en 2026 pour justement contrer les politiques répressives en matière de drogue et construire les alternatives fondées sur le soin, la dignité et la justice.
On comprend tout maintenant. Merci, Mathieu. La chronique de Monique Kerouac. Monique s'est intéressée aux troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité.
Exactement, Hélène. Alors, c'est un article qui est publié dans la revue Epsilon du mois d'août 2026 sous la plume de Marie-Catherine Mera. Alors, fin 2025, Hélène, le hashtag TDAH était tendance sur TikTok.
Oh.
Oui. Au 30 mars 2026, il cumulait plus de 696 000 publications. Alors, on pourrait presque dire que tout le monde veut son TDAH. En fait, c'est ce qu'observe Sarah Fally, qui est psychologue pour enfants dans le service recherche du CHU de Montpellier en France. Bon, TDAH, c'est un trouble caractérisé par deux grandes catégories de symptômes, combinés ou non, l'inattention et l'hyperactivité. Le fait est que le nombre de diagnostics est en augmentation un peu partout dans le monde. Le phénomène est particulièrement marqué aux États-Unis, passé entre 2016 et 2022 de 8,9% à 10,5% d'enfants diagnostiqués, ce qui représente 1 million d'enfants supplémentaires en 6 ans. Je regardais, Hélène, ce qui se passait au Québec.
Ouais.
Eh bien, l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, estime la prévalence chez la population de 1 à 24 ans à 11,3%, ce qui a quadruplé depuis les années 2000.
On a présenté un reportage là-dessus récemment à l'émission de Patrice Roy et il y avait aussi le docteur Chiquan là, qui s'exprimait là-dessus.
Oui.
Oui, très intéressant.
Oui, certainement. Alors, on pourra peut-être compléter l'article avec les remarques de Monsieur Chiquan, de Dr Chiquan. En Europe, la tendance est également à la hausse. L'utilisation de médicaments contre le TDAH augmente de 8,96% par an. À croire que nos sociétés occidentales produisent des TDAH à l'appel. De là à douter de l'existence réelle du trouble, ben il n'y a qu'un pas. Et certains n'hésitent pas à le franchir. On entend souvent « le TDAH n'existe pas, il a été inventé pour vendre un médicament ». Ces propos sont malheureusement rapportés relativement fréquemment, de même que le refus de renouveler la prescription médicamenteuse. Incompris et parfois mal aimé, voilà un trouble qui ne cesse de faire parler de lui depuis des décennies. La faute, peut-être, c'est à la complexité de ses origines, entre autres, lesquelles seraient bien plus anciennes que l'on ne le croit. Les premières descriptions du trouble remontent à plus de 200 ans. Dès 1798, un médecin écossais, Sir Alexander Crichton, décrit des patients facilement distraits par des stimuli extérieurs, un bruit, de la lumière, et qui paraissent très agités. Ils ont la bougeotte, note-t-il. En 1902, c'est un pédiatre britannique, George Steele, je trouve intéressant le nom de famille, Steele, hein, qui veut dire stable, inactif,
okay.
Sans mouvement, tout le contraire de ce qui se passe avec les enfants, qui détaille le cas d'enfants souffrants, incapables de maintenir leur attention, impulsifs, piquant des crises de colère. La littérature enfantine, elle aussi, dépeint dès le 19e siècle des bambins dont le comportement rappelle étrangement le TDAH. Et on nous parle de Philippe le gigoteur dans un livre illustré allemand et animé en publié en 1840. Alors, on nous décrit ce petit Philippe le gigoteur comme un garçon qui est incapable de rester assis tranquillement à table malgré les avertissements de son père. Il se balance d'avant en arrière sur sa chaise jusqu'à tomber à la renverse, emportant avec lui nappe, couvert et nourriture. Le trouble ne s'appelait pas encore TDAH à l'époque. Il ne prendra ce nom qu'en 1980, dans la troisième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ce que l'on appelle le DSM, édité par l'Association américaine de psychiatrie, qui est devenue une référence, je dirais même une bible, pour les praticiens du monde entier. Avant cela, la littérature médicale évoque successivement un trouble hyperkinétique impulsif, un dysfonctionnement cérébral minime, puis une réaction hyperkinétique de l'enfance à la fin des années 1960, l'accent étant mis sur l'hyperactivité, particulièrement visible chez les jeunes garçons. Le lien avec l'attention, qui est l'autre aspect de ce trouble, n'est réellement établi qu'en 1972, dans un article de Virginia Douglas, qui est professeure à l'Université de Montréal. Elle a mis ensemble l'attention et l'hyperactivité pour la première fois et décrit l'effet des stimulants. Ça a été un écrit fondateur pour l'idée du TDAH. Le TDAH est donc une vieille histoire et on nous dit que peut-être même plurimillénaire. Une étude publiée en 2020 révèle que les gènes associés aux troubles existaient déjà et même avec une fréquence plus élevée au paléolithique, il y a donc 45 000 ans.
C'est pas d'hier!
Élevons tout de suite un malentendu. La prévalence n'a pas augmenté depuis 30 ans. Ni en France, ni ailleurs dans le monde. Elle tourne autour de 5 % chez les enfants et de 2,5 % chez les adultes. On ne parle pas là du nombre de diagnostics posés qui lui est en augmentation, mais bien de la prévalence réelle dans la population qui, elle, apparaît stable. On nous dit que depuis une quarantaine d'années, il y a des dizaines d'études qui ont été menées aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique du Sud, en Asie, et les résultats sont identiques. La prévalence épidémiologique est la même et elle n'a pas évolué au fil du temps. Il n'en reste pas moins que le nombre de diagnostics posés est, lui, à la hausse. Les raisons sont multiples. La première, c'est que le trouble est mieux connu et certainement reconnu par les professionnels de la santé. On pourrait aussi se demander si le surdiagnostic est une mode. La question se pose, en Amérique du Nord, où les chiffres qui atteignent 10,5 % des enfants en 2022, entre autres, mais il n'y a pas que les enfants maintenant. Il y a de plus en plus de diagnostics qui concernent aujourd'hui les adultes. Peut-être dû au fait, Hélène, qu'une fois qu'on a diagnostiqué son enfant, on passe nous-mêmes le test et voilà, on éprouvait ce problème-là, ce trouble-là aussi. On nous dit qu'il y a une pression probablement scolaire dans l'éducation, dans les familles, dans les écoles. Quelque chose pourrait-il avoir changé qui provoque une multiplication des diagnostics? Oui, certes, il y a les symptômes qui sont présents et surtout, il y a le fait des difficultés à l'école, dans la famille et au quotidien. En fait, il y a un dysfonctionnement, il y a un impact réel sur le développement de l'enfant en milieu scolaire. Mais la pression scolaire s'est peut-être accrue aussi, compliquant les capacités d'autorégulation des enfants TDAH. On met sur ces enfants une étiquette, on y associe un programme scolaire particulier et une médication, mais peut-être y a-t-il d'autres moyens de faire en sorte que l'enfant comprennent ce trouble et peut-être réussissent à le contrôler un peu mieux sans toute cette panoplie de mesures de compensation. Il y a un soutien vraiment important de la famille qui demeure central. Alors, je n'ai pas entendu l'entrevue avec Dr Chiquan. Est-ce que ça va dans le même sens, Hélène?
Oui, complètement, Monique. Il en discutait avec Patrice Roy et, on parlait de certains médecins, certains parents, certains enseignants qui sont peut-être trop vite sur le diagnostic et la médication, et quelquefois à tort, quelquefois à raison, mais le docteur Jean-François Chiquan invitait les parents à envoyer leurs enfants dehors, à jouer dehors, lâcher leur fou. Et quelquefois, on peut se rendre compte que c'est de cela dont les enfants ont besoin plutôt que de médicaments. Mais ils ne mettaient pas tout dans le même panier, là. Il y avait beaucoup de nuances parce que oui, il y a des personnes qui ont vraiment ce trouble-là, mais il y en a d'autres qui pourraient peut-être vivre sans médicaments.
Tout à fait. Par hasard, j'en discutais avec une amie dont le fils a été diagnostiqué lorsqu'il était au primaire. Et comme jeune adulte, il a décidé de se prendre en main. Il a changé son alimentation, entre autres, pas de sucre.
Ah oui? Ça a aidé, oui.
Et beaucoup d'activité physique. Et il ne prend plus de médication. Cette médication, c'est un musicien, l'empêchait presque de composer.
Ah, oui.
Alors, on peut voir qu'il y a des moyens. Oui, il y a des enfants, certainement, et même des parents qui ont besoin d'un soutien médicamenteuse, mais c'est pas toujours le cas.
Mm-hmm. Faut en discuter, ça fait réfléchir. Je vous remercie,
oui.
Monique. J'ai une entrevue à 10h15, mais on fait un petit pont, puis on y va avec une brève, puis votre capsule linguistique.
D'accord.
De retour avec Monique. Alors, le temps file, Monique, je vous laisse aller. Est-ce que vous voulez parler des 10 000 pas qui suffisent ou pas?
je vais plutôt prendre, je vais vous poser la question, est-ce qu'il est important de parler de tout et de rien, Hélène?
Bien, pour certaines personnes, oui, parce que ça peut nous amener à parler de quelque chose de plus fondamental ou de plus profond.
Vous êtes brillante, chère amie.
Oh, arrêtez.
Il y a 9 études auprès de 1800 Français qui illustrent en effet qu'il est important de parler de tout et de rien. On sous-estime le plaisir qu'on tirera réellement de petites conversations de 5 minutes sur des sujets jugés a priori banals, voire un peu ennuyeux. C'est ce qui fait du bien et ça ne tient pas au sujet dont on parle, mais à l'engagement qu'on y met. Et celui-ci, or imprévisible, souvent émerge d'autres sujets qui sont plus profonds et dont on partage les propos avec ses amis et connaissances.
Bon, alors vive le small talk, même si c'est un anglicisme.
Oui, c'est ça.
Et parlant d'anglicisme, Monique, capsule linguistique, on en parlait la semaine passée. J'ai déjà joué dans ce film-là. On l'entend beaucoup dans la bouche de chroniqueurs politiques.
C'est très vrai. Puis, alors, Hélène, je vous rassure, il s'agit d'une métaphore familière, mais courante. On utilise cette expression pour dire qu'on a déjà vécu une situation similaire, souvent désagréable, et qu'on en connaît d'avance l'issue ou la fin. C'est à peu près l'équivalent de « j'ai un sentiment de déjà-vu, l'histoire se répète, je connais déjà la chanson ou la musique ». Ça demeure familier, donc on l'utilisera dans un contexte d'une discussion avec collègues, entre amis ou en famille, mais on l'évitera dans un écrit formel. Alors on optera fort probablement pour une phrase comme « cette situation nous est familière » ou encore « nous avons déjà été confrontés à ce scénario ».
Bon, alors pour utiliser une autre expression familière, il n'était pas tout à fait dans le champ.
Exactement, Hélène.
Merci beaucoup, Annick. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Thank you.
Quelle belle musique, Gnossienne numéro 1 d'Éric Satie. Et c'est le thème d'une émission que vous avez peut-être déjà entendue, puisqu'elle a commencé aujourd'hui à 8 heures ce matin, intitulée « De la plume à l'oreille, feuilleton littéraire ». Et c'est une belle idée d'André Lebeau qui est devant moi. Bonjour André.
Bonjour.
André est bénévole à Vues et Voix depuis pas 24 ans, 23 ans. On aura fait les calculs.
Oui.
23 ans. Vous avez commencé en 2003.
C'est bien ça,
comme
oui.
lecteur.
Comme lecteur,
toujours.
Oui. Toujours.
Et puis là, comment c'est venu cette idée-là là, de cette émission?
Ben, j'ai voulu renouer avec mon engagement premier qui était de faire la lecture de livres audio. Et comme c'est le 50e anniversaire de Vues et Voix cette année, j'ai eu cette idée-là en juillet. Je l'ai présentée à la direction de Canal M qui a été enchantée de pouvoir renouer avec d'offrir aux auditeurs et aux auditrices des livres.
Ah, bien, on est bien contents, nous aussi, on est enchantés. Dites-nous en quoi consiste exactement votre émission.
On va faire la lecture en feuilleton, c'est-à-dire qu'un livre va commencer au premier épisode et va se poursuivre sur plusieurs semaines,
ouais.
une heure par semaine à l'émission. On va lire des romans, des contes, des fables, des poèmes, mais principalement des romans québécois et parfois d'auteurs étrangers aussi.
Et André, l'objectif que vous visez avec cette émission-là, quel est-il?
Je cherche à offrir un moment de détente et d'évasion aux
auditeurs.
On
en a bien besoin.
Oui, oui.
Oui, oui. Vous, quand vous entendez lire, est-ce que vous ressentez cette sensation-là de détente?
Ah, absolument.
Oui.
Et je dirais surtout d'évasion dans mon cas. J'ai l'impression d'être toujours ailleurs. Je ne suis plus à la maison, je ne suis plus dans mes problèmes. Je ris, je pleure,
oui.
je suis ému, je suis ailleurs.
Vous êtes dans l'histoire
oui,
et vous vous laissez transporter.
Oui, oui.
Alors, qui va lire les livres? Il n'y a pas que vous, là.
Non, je vais faire quelques lectures, mais j'ai 16 collègues bénévoles.
Oui. Avez-vous passé
à
des auditions?
Ah, ce sont des gens qui sont en place depuis déjà un petit bout de temps,
oui.
qui font déjà de la lecture pour Vues et Voix et qui vont prêter leur voix à l'émission.
Donc, des voix féminines et des voix masculines?
Absolument, et on va alterner entre les deux, autant pour les livres, pour essayer de marier les voix avec les personnages,
oui.
avec l'histoire, que pour faire aussi une variation pour les auditeurs et auditrices.
Mais est-ce qu'il y aura une voix par livre?
Oui, c'est une voix par livre,
Parfait.
Du début à la fin.
OK. Alors, vous ouvrez le bal avec La Squine. Parlez-nous de La Squine.
Oui, La Squine est un roman d'Albert Laberge, un écrivain québécois, qui a été publié en 1918. Et c'est un roman qui se situe dans le courant littéraire anti-terroir. C'est-à-dire que l'auteur, à l'époque, on cherchait à encenser la vie paysanne en disant « tout est beau, tout est parfait, la bonne terre qui nous nourrit ». Mais l'auteur a fait contre-pied à cette idéologie-là et a voulu démontrer la vie, les côtés peut-être moins reluisants de la vie paysanne.
Ah,
et
oui.
donc, il y a un langage coloré et il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là.
Oui?
Oui.
Donc, c'est un coup de cœur pour vous.
Ah, oh, absolument.
Oui. C'est
absolument.
Important d'ouvrir
oui.
avec cette œuvre-là, La
oui.
Squine, et non La Sagouine. La Squine,
non.
ça n'a pas, pas rapport avec,
non,
avec
ça
La Sagouine.
Non, ça n'a pas rapport du tout.
Puis, en octobre, qu'est-ce que vous allez proposer?
Ah, ben, en octobre, on va faire un spécial Halloween avec trois épisodes consacrés à l'Halloween avec des nouvelles de l'auteur américain Edgar Allan Poe, qui est sûrement le maître incontesté du macabre. Donc, plutôt que de présenter des monstres ordinaires, on va aller au plus profond de l'esprit humain.
Oui, je me souviens d'avoir lu La Chute de la Maison Huchère.
Oui.
Donc, frissons garantis
oui,
ou argent remis.
Oui.
Continuez donc de nous présenter quelques autres titres.
Oui, bien, par la suite, on va revenir avec un roman québécois, Un cœur fidèle, d'une écrivaine, cette fois-ci, Blanche Lamontagne-Beauregard, publiée en 1924. C'est une belle histoire d'amour. Et là, on retourne dans le roman du terroir, donc où la vie paysanne est mise en valeur. Et c'est un beau roman avec une histoire d'amour entre deux jeunes au cœur pur. Et ensuite, on va revenir avec le thème de Noël, avec le Cantique de Noël de Charles Dickens,
mm-hmm.
pour rencontrer Ebenezer Scrooge, celui qu'on associe maintenant
oui.
à Noël.
Celui qui n'aime pas Noël.
Celui qui n'aime pas Noël, mais qui finit par l'aimer, par contre.
Mais là, vous avez dévoilé le punch.
Ah oui!
Et puis, vous avez déjà des projets pour janvier 2027.
Oui, en janvier, on revient avec des romans québécois comme Marie Calumet de Rodolphe Girard, publié en 1904, et Angéline de Montbrun par Laure Conant, une femme magnifique, une plume extraordinaire, encore une histoire d'amour un peu tragique, mais magnifique. Et l'amour filial entre une fille et son père, c'est de toute beauté.
Est-ce que c'est vous qui faites les choix de livres?
Oui.
Et comment vous... qu'est-ce qui vous guide?
Ah, je fais beaucoup de recherches. Je fais beaucoup de recherches dans un manuel qui est l'anthologie de la littérature québécoise. Ça m'aide beaucoup pour comprendre les mouvements littéraires, les auteurs, les écrivains, écrivaines. Et aussi, mon conjoint a été professeur de littérature.
Ah, ça
donc,
aide,
il peut me conseiller.
Donc, on va faire une sorte de voyage dans le temps parce qu'on n'est pas en 2026. Là. C'est surtout des romans qui datent du début du 20e siècle.
Oui, c'est ça. Ce sont tous des livres qui sont dans le domaine public, donc dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Donc, on a beaucoup de livres du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle.
Vous nous donnez vraiment envie de découvrir De la plume à l'oreille, feuilleton littéraire. C'était André Lebeau qui était avec nous pour présenter cette émission De la plume à l'oreille qui est diffusée le jeudi, donc aujourd'hui à 17h et en rediffusion le vendredi 20h, le samedi à 22h et le dimanche à 14h. Nous serons au rendez-vous. Encore une fois, bravo pour cette belle idée. Bien contente de vous entendre sur nos ondes à Canal M à compter d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Hélène.
Salutations, André. Quel beau morceau signé Éric Satie. Merci d'écouter Canal M, Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h. Et on se demandait en début d'émission si Dominique Tremblay allait être avec nous, parce que Dominique est sollicité d'un bord et de l'autre. Et il a confirmé sa présence, donc il sera avec nous pour sa chronique Parasport qui s'en vient tout de suite après la pause. Dominique va nous parler, entre autres, des championnats du monde de basketball en fauteuil roulant.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est l'heure des parasports avec Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Mais ça va bien, vous? Vous avez le sourire, le soleil dans la voix.
Oui. J'ai été parti pendant plusieurs jours en Corée et maintenant je suis retour dans mon bureau à regarder les différents résultats. Et je suis passé par-dessus, finalement, le décalage horaire. Donc, aujourd'hui, c'est une très bonne journée.
Bon, c'est parfait. En quelques mots, votre voyage en Corée?
Ça a bien été, c'était les championnats du monde de boccia qui se déroulaient à Séoul. Ça a été une très bonne compétition. En plus, ça se déroulait sur les sites des jeux de gymnastique des Jeux olympiques de 1988. Je pense que la Séoul et la Corée ont fait une très bonne réutilisation des différents sites de compétition des Jeux olympiques de 1988. Je vous rappelle aussi que les Jeux paralympiques ont eu lieu à Séoul. C'était la première fois que les Jeux paralympiques utilisaient les mêmes sites de compétition que les Jeux olympiques. Alors, donc, c'était très bien. Et entre notre hôtel et le site de compétition, il y avait le parc olympique, un grand espace vert où plusieurs habitants de Séoul se promènent durant la journée et la soirée pour relaxer de la chaleur et de la grosse journée de travail. Donc, c'était toute une expérience et j'ai très bien aimé ça.
Ah, bien contente pour vous, Dominique. Alors, du boccia, on passe au basketball, les championnats du monde de basketball en fauteuil roulant.
Oui, qui se déroule depuis hier à Ottawa. Il s'agit de la plus grosse compétition parasport à se tenir au Canada depuis les Jeux Parapanam de 2015 à Toronto. Il y a 16 équipes masculines qui participent et aussi 12 équipes féminines pour se batailler là pour la plus haute marche du podium. Le Canada a commencé la compétition hier. Et tant chez les hommes que chez les femmes, pardon, les deux équipes ont gagné de façon convaincante contre l'Espagne chez les femmes et contre le Maroc chez les hommes. Les deux équipes ont commencé assez tranquillement leur match. Les deux équipes étaient très proches une de l'autre, soit contre l'Espagne pour les filles et le Maroc. Et c'est en deuxième demi là que vraiment la grosse différence s'est faite. Il y a chez les femmes, Élodie Tessier, qui est membre depuis 2018 avec l'équipe canadienne senior, c'était la première fois qu'elle jouait devant sa famille. C'était toute une expérience et là, elle a adoré cette expérience-là. Et elle a aussi bien fait puisqu'elle a réussi ses 5 lancers pour un total de 10 points à une des meilleures joueuses de l'équipe canadienne. Il y a aussi Cindy Ouellette, une autre vétérane de l'équipe canadienne. Donc, on espère beaucoup de l'équipe féminine qui a terminé 4e aux Jeux paralympiques de Paris. Même chose chez les hommes qui ont terminé 4e à Paris. Mais c'est une équipe qui est beaucoup plus jeune que celle qui était à Paris. Donc, on espère que les résultats vont suivre. La compétition se déroule à Ottawa au Centre civique et à l'Université Carleton au cours jusqu'à la fin de semaine prochaine. Tous les gens, on peut acheter des billets pour assister aux rencontres. Il y avait quand même une bonne foule hier et c'est aussi diffusé sur les sites Internet de Radio-Canada en français et à CBC en anglais.
Et vous vouliez nous parler aussi d'un changement d'entraîneur des équipes provinciales de basketball en fauteuil roulant.
Oui, non pas de basketball, mais de goalball, pardon. Ah! Je me suis trompé dans la phrase que j'ai écrite, c'est ma faute, je suis désolé.
On vous pardonne, cette fois-ci.
C'est correct. Oui, je vais essayer de plus le faire, je vous le promets. Donc, Nathalie Séguin, fait partie des piliers du monde de parasport au Québec, était entraîneur-chef tant chez les hommes et chez les femmes depuis 14 ans. Elle a aussi entraîné l'équipe masculine pendant FIBE canadienne pendant plusieurs années, mais elle est aussi entraîneur d'athlétisme pour l'Université Laval depuis quelques années et son club à l'Université Laval prend de plus en plus de son temps et aussi plusieurs athlètes qui s'approche des standards de l'équipe canadienne. Donc, elle a décidé de laisser de côté le goalball. Et elle a été remplacée par Bruno Haché, qui est un ancien joueur de l'équipe nationale masculine et qui a fait partie là, de plusieurs bonnes équipes, tant provinciales que nationales. Il a pris sa retraite là, depuis les Jeux de Tokyo. Et je suis content de voir Bruno de prendre la place de Nathalie et de commencer là à mettre sa marque sur le goalball québécois. Il a fait beaucoup de choses en tant que joueur et maintenant il saute de sur la ligne de côté pour devenir entraîneur. On lui cite bonne chance. Et on est en période de reconstruction là, pour les équipes de goalball au Québec, tant féminine que masculine. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que Bruno Haché va être capable de faire.
Oui, Dominique, rappelez-nous pour votre punition. Non, j'ai fait une petite blague. Mais ce que c'est exactement le goalball?
Alors, c'est un sport pour les athlètes qui ont une déficience visuelle. Tous les joueurs ont un masque sur les yeux pour que tout le monde ne voit pas. Ils doivent lancer le ballon qui a une petite sonnette à l'intérieur dans le but de l'autre équipe. Et donc, les athlètes se dirigent seulement par le son de la balle ou les voix des athlètes. Et il faut arrêter le ballon. Et c'est quand même assez passionnant. C'est un jeu qui est assez rapide. Et il y a plusieurs techniques là, pour lancer le ballon de différentes façons, soit de lui faire faire des bonds ou encore de lancer assez dans les airs. Donc, c'est quand même passionnant. Et oui, le sport a évolué beaucoup au cours des dernières années et c'est rendu très spectaculaire là, comme sport.
Merci beaucoup pour cette chronique. J'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine.
Avec plaisir, Hélène. Bonne semaine. Au revoir.
Vous aussi. Bye.
La chanson « Septembre » de Catherine Van Desbourg.
Eh oui, nous sommes en septembre et on se retrouve. François Larochelle, ancien diplomate du Canada, bonjour.
Bonjour.
Et François, vous avez passé un bel été?
Excellent.
Oui, excellent, tant mieux.
Et vous, Hélène?
Oui, ça s'est bien passé pour moi. L'actualité internationale, elle, n'a pas pris de vacances au cours de cet été 2026. On a beaucoup parlé de la guerre tarifaire entre les États-Unis et le Canada et ce n'est pas fini. Mais le reste du monde a continué de tourner. Malheureusement, ce sont les mêmes guerres, les mêmes conflits qui se sont poursuivis et qui se sont même intensifiés avec des répercussions chez nous, comme le prix du pétrole.
Exactement. En effet, je voudrais... ce serait difficile pour moi de faire un résumé détaillé de tout l'été international parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, je vais essayer de me concentrer sur les développements les plus importants. D'abord, il y a eu ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Le conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui a commencé au début de 2026, est loin d'être terminé, même s'il n'a pas la même ampleur qu'à ses débuts. On se retrouve en fait dans une situation où il n'y a ni guerre, mais il n'y a pas la paix non plus. Le litige principal étant, comme on le sait, le blocage du détroit d'Ormuz par les Iraniens, mais aussi les Américains. Il permet ici à Téhéran d'influencer directement sur le prix du pétrole et sur l'inflation mondiale. Présentement, la stratégie américaine semble être de tenter d'asphyxier économiquement l'Iran, mais l'efficacité de cette stratégie reste très incertaine parce que l'Iran subit toutes sortes de sanctions économiques et autres depuis des décennies et a donc adopté son économie en conséquence. Mais faute pour l'instant de revenus pétroliers, ce sera difficile pour eux et c'est malheureusement la population iranienne qui va en subir les conséquences. Mais cette nouvelle approche de Trump n'écarte pas, comme on le voit, un retour à l'option militaire, comme on l'a vu il y a quelques jours. Il y a donc une espèce de cycle qui s'est instauré, des attaques américaines sur des cibles iraniennes qui sont suivies de répliques iraniennes par des missiles et des drones contre des bases américaines dans la région ou vice-versa.
Un cercle vicieux.
Exactement. Et le protocole d'accord qui avait été signé à la mi-juin, le 17 juin, je pense, entre Trump et les Iraniens, qui était supposé mettre fin à la guerre, semble mort et enterré. Et il n'y a pas de sortie de crise en vue. Ce petit jeu risque de durer longtemps et pourrait déraper. Il ne faut pas non plus oublier les outils du Yémen qui peuvent bloquer le trafic maritime en mer Rouge.
Ailleurs, les Palestiniens et les Libanais subissent l'occupation israélienne. Les attaques continuent à Gaza malgré un soi-disant cessez-le-feu. Et en Cisjordanie, on assiste à une annexion en théorie du territoire palestinien.
En fait, c'est ça. C'est un autre conflit qui n'en finit plus. La bande de Gaza reste une enclave dévastée où la situation humanitaire est catastrophique. Le Hamas a accepté de se désarmer, mais Israël, qui contrôle plus de 60 % du territoire de Gaza, refuse de se retirer, contrairement d'ailleurs au plan de paix de Trump. Ne respectant pas le cessez-le-feu, les Israéliens bombardent quasi quotidiennement le territoire palestinien et tuent femmes et enfants. Les Israéliens ont même récemment interdit aux enfants palestiniens de faire voler des cerfs-volants, des menaces pour la sécurité de l'État hébreu, apparemment. En Cisjordanie, on assiste à un accaparement des terres palestiniennes par la multiplication de nouvelles implantations. La violence des colons atteint un niveau inédit, profitant de la protection de l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre 2023, là, ça c'est la date de la fameuse attaque du Hamas, plus de 1100 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ou les colons.
Et au Liban?
Bon, alors malgré une trêve qui est soi-disant en place depuis juin 2026, l'armée israélienne continue d'occuper une zone tampon de 5 à 8 kilomètres de profondeur au sud du Liban. Elle y mène des dynamitages quotidiens de maisons et d'infrastructures. Les Israéliens bombardent régulièrement le sud du Liban, faisant de nombreuses victimes civiles, y compris, bien encore là, des femmes et des enfants. À l'initiative des Américains, des négociations entre le Liban et Israël sont en cours, mais elles progressent peu. les Libanais ou le gouvernement libanais réclament un cessez-le-feu réel, le retrait israélien de la zone occupée et le retour des déplacés, ainsi que la reconstruction de toutes ces infrastructures et maisons qui ont été détruites par les Israéliens.
L'été 2026 a confirmé que la guerre russo-ukrainienne est devenue une guerre d'usure.
Oui. Ces dernières semaines, Kiev et Moscou ont intensifié les attaques contre les infrastructures de l'ennemi. L'Ukraine a fait baisser d'environ 30 % la capacité russe de raffinage du pétrole, créant même des pénuries pour les automobilistes russes. En Ukraine, la Russie accélère aussi ses frappes. Tout ça se traduit par une hausse du nombre de victimes civiles, beaucoup plus nombreuses du côté ukrainien, cependant. L'Ukraine a de plus en plus de mal à intercepter les drones et missiles qui la visent, notamment les nouveaux drones à réaction russes. De plus, la Russie possède une supériorité de production militaire grâce à son industrie de défense. La Russie est aussi aidée par la Corée du Nord et indirectement la Chine. Dans la phase actuelle, Moscou veut créer des conditions de vie insupportables pour la population ukrainienne. Pour l'Ukraine, le principal objectif servirait à montrer à la population russe le prix de la guerre et à faire pression sur les élites russes. Pour l'instant, je vous dirais que c'est Poutine qui a l'initiative, mais cela pourrait changer si les Ukrainiens réussissaient à se doter de nouveaux équipements défensifs. Mais cela prendra malheureusement un certain temps. Ces derniers jours, Trump a envoyé ses deux sbires habituels, son gendre Kouchner et le promoteur immobilier Witkoff, à Moscou et à Kiev, pour soi-disant négocier la paix, mais franchement, on n'a pas vu de résultats concrets comme toujours.
Alors, on peut craindre que l'hiver prochain sera difficile pour les Ukrainiens.
Oui, car il faut s'attendre à une reprise donc de frappes russes contre les infrastructures énergétiques qui provoqueront des coupures d'électricité et de chauffage.
Il y a aussi un problème nouveau qui s'est développé au cours des derniers mois.
Oui, c'est l'extension de la confrontation à l'Europe. Sabotage, cyberattaques, drones et opérations clandestines russes font désormais partie du conflit. Le plus récent est une tentative d'attentat au drone explosif contre l'aéroport de Leipzig en Allemagne le 4 août. Le risque principal n'est pas nécessairement une invasion russe de l'OTAN à court terme, mais c'est plutôt l'accumulation d'incidents qui pourra augmenter progressivement le risque d'erreur de calcul. Les Européens et l'OTAN cherchent à s'unir, mais c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Il y a eu également d'autres événements internationaux d'importance. On ne peut pas non plus passer sous silence les conséquences du réchauffement climatique. Il y a eu des canicules diaboliques.
Diaboliques et multiples. Ouais. En Europe, qui a fait évidemment des incendies de forêt, particulièrement en France, et des sécheresses, par exemple, en Angleterre. Il y en a eu aussi, bien sûr, au Canada et aux États-Unis, et maintenant, il y en a en Asie. Ces épisodes de chaleur extrême ont des conséquences économiques et humanitaires de plus en plus marquées. Le climat devient un enjeu de sécurité internationale, notamment en matière de migration, d'alimentation et d'accès à l'eau. Et pourtant, nos dirigeants politiques reculent dans ce dossier au lieu de réagir de façon décisive, y compris au Canada, d'ailleurs.
Oui. Alors, selon vous, qu'est-ce que nous réserve les prochains mois?
Bon, ben, je pense qu'on peut s'attendre à la poursuite de la politique incohérente et autodestructrice des États-Unis de Trump, du moins jusqu'aux élections de mi-mandat américaines de novembre prochain. Si les démocrates les gagnaient de manière significative, cela pourrait peut-être calmer Trump, mais cela reste à voir. Car Trump passera sans doute son temps à dire qu'elles étaient truquées et à poursuivre le chaos actuel en contournant le Congrès américain.
Oui, le même manège.
Ouais.
Il y a aussi les élections de fin octobre en Israël.
Oui. Netanyahou traîne dans les sondages. On soupçonne désormais qu'il est au courant de l'attaque du Hamas d'octobre 2023, mais qu'il n'a rien fait. Mais de toute manière, l'électorat israélien semble convaincu que seules des guerres sans fin et la puissance militaire les protégeront, et les partis d'opposition ne semblent pas vouloir vraiment les contredire. Le poids des sionistes extrémistes pèse de plus en plus lourd auprès de l'électorat israélien. Il faut aussi mentionner qu'au printemps, il y aura une autre élection importante, celle-ci qui va avoir lieu en France. Ces présidentielles pourraient amener l'extrême droite de Marine Le Pen à la tête de la nation française. Une perspective peu réjouissante, notamment pour une victoire de l'extrême droite lors d'élections régionales en Allemagne au cours du week-end.
Non, il n'y a pas de quoi se réjouir. Donc, ce ne sont pas les sujets de futures chroniques qui manqueront.
Non, pas du tout. Et sauf, par contre, je peux vous dire que c'est une certitude que je peux voir dans ma boule de cristal.
La fameuse boule de cristal. François Larochelle, ancien diplomate du Canada, merci beaucoup. On se retrouve dans 3 semaines.
Tout à fait. Au revoir.
Imagine, chanson de John Lennon.
Oui, ça enchaîne bien la chronique internationale de François Larochelle et c'est aussi une façon d'être solidaire avec les victimes, les survivants de la tragédie du 11 septembre dont on soulignera demain les 25 ans. 25 ans déjà. Hier soir, Mathieu, j'ai passé une grosse soirée au théâtre. J'étais à la Place des Arts, au Théâtre du CEP, 2 lieux différents. Ça a commencé avec Micheline, de Michel-Maxime Legault, qu'on recevait il n'y a pas si longtemps, qui présente une adaptation pour le théâtre de son récit publié aux éditions Quartz. Michel-Maxime Legault qui se raconte à travers sa mère, Micheline, mère de 7 enfants, agricultrice, qui travaille sans relâche, qui vit à Saint-Polycarpe, en Vaudreuil-Soulanges, et sa tante Micheline, mère d'un enfant, d'une fille, qui vit, elle, dans son beau Laval avec son beau Robert. Et la pièce est présentée en formule 5 à 7. Quand on arrive au Théâtre du CEP, il faut descendre les marches. On nous offre une boisson, une bouchée. Hier, c'était du popcorn. Alors, je me sentais comme au cinéma. Et puis, dans cette pièce, donc, Michel-Maxime Legault partage la scène avec l'actrice Frédérique Bédard, qui est une actrice qu'on a vue notamment dans Pied de poule, mais dans des projets sujet aussi de Robert Lepage. Et donc, Michel-Maxime Legault, lui, incarne Michel, donc lui-même, et il interprète aussi sa mère avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, sa mère qu'il aime profondément et que l'on voit aussi en projection. Ça, c'est un des moments très touchants de cette pièce. Frédérique Bédard, elle incarne la Micheline de Laval, l'exubérante Micheline. Son interprétation nous happe malgré quelques hésitations. On aimerait qu'elle s'abandonne encore plus, mais on peut comprendre. Hier, là, c'était une première, donc il y avait de la nervosité dans l'air. Donc, avec le temps, je suis certaine que tout va se placer. Micheline est présentée à guichet fermé, mais il y a des supplémentaires d'annoncer déjà chez Duceppe pour l'an prochain et la pièce sera présentée en tournée. Formule 5 à 7, on en parle aujourd'hui dans la presse, là, c'est très populaire comme formule. La pièce dure une heure, on arrive un petit peu avant 17h30 et on en sort un petit peu après 18h30. Donc, une pièce pleine de tendresse et d'humour. J'ai passé un beau moment. Bravo à Michel-Maxime Legault, dont on s'est vraiment attaché. Et puis l'autre pièce, c'est un classique. Je pourrais dire ça comme ça parce que c'est une pièce qui est représentée, qui avait été présentée en 1999, 24 pauses, portrait, entre guillemets, un texte de Serge Boucher. C'est une histoire de famille, une famille qui se réunit pour célébrer Richard, un des trois enfants de Denis et de Claire. Richard est incarné avec énormément de bagou, Marc Beaupré, excellent. Ses parents sont Guylaine Tremblay, qui joue Claire, elle est formidable, et Martin Drainville m'a complètement jeté à terre dans son rôle de Denis. Ça se déroule le 10 août 1997, peut-être une date qui vous dit quelque chose, puisque c'est la date où on apprenait la mort tragique de Marie-Soleil Touga. Et d'ailleurs, l'événement va s'imbriquer dans l'histoire de famille et faire basculer le cours des choses en quelque sorte. Le cours des choses qui est somme toute assez banal en apparence. On est dans des conversations qu'on pourrait qualifier de small talk. On en parlait tantôt avec notre amie Monique. Parfois, on a l'impression d'être dans l'univers de Louis Saya et de Claude Meunier, là, dans Les Voisins. On parle de tondeuse à gazon. On rit, mais on est aussi troublé et de plus en plus troublé. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé la pièce, surtout pour les comédiens qui ont tous l'intelligence du texte de Serge Boucher. Je les nomme tous. J'en ai déjà nommé, mais je vais les renommer. Marc Beaupré, Martin Drainville, Guylaine Tremblay, Émilie Bibeault, Frédéric Blanchette, Gabriel Favreau, Myriam Fournier, Benoît Moffette. 24 pauses portraits est présenté chez Duceppe jusqu'au 3 octobre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a plein de choses. Le gala des Gémeaux, je voulais aussi vous parler de cette invitation à la ferme. J'ai dit ça, moi, tout près? Ah, il y a la ferme en ville, la ferme à la campagne. Bien, c'est tout. Ici Hélène Denis, on se retrouve mardi. Merci Mathieu.